On va vous parler de Twitter qui se limite lui-même, d'acteurs qui se concurrencent eux-mêmes et de TikTok qui fait des challenges de pub. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 520, nous sommes en juillet 2023. Je suis Patrick Béja et c'est le dernier épisode avant que je ne disparaisse pendant quelques semaines, mais pas d'inquiétude, aucune sorte d'inquiétude, pour le Rendez-vous Tech en tout cas, puisqu'il y aura des épisodes qui vont venir combler mon absence, peut-être avec plus de talent que je ne le fais moi-même. On aura des épisodes animés par des animateurs invités que vous connaissez et que vous aimez. On aura des épisodes spéciaux. On a un épisode où on fait le portrait de Cédric, pas lui qui est là, pas de Lucas, mais Cédric Ingrand. Et Cédric Ingrand, il a eu une vie assez incroyable, assez intéressante. Vous connaissez Carbon 14 ? Eh bien, si vous connaissez un petit peu Carbon 14, il aura des trucs à vous dire sur Carbon 14 et d'autres choses. Figurez-vous qu'il a travaillé à Carbon 14, radio pirate du début des années 80. Conversation super intéressante, ça sera dans deux semaines, je crois. Je vais aussi faire un épisode spécial où je vais vous parler des moments que moi, j'ai trouvé les plus importants dans l'histoire de la tech et les moments les plus importants pour moi. Bref, il y aura plein de trucs pendant les vacances, mais pour le moment, on est là pour parler de l'actualité de cette semaine. Et pour le faire, pour ce faire, on va avoir Cédric Deluca qui m'accompagne. Épisode tranquillou, juste à deux, tous les deux, et la chatroom, ouais. Bien sûr. Bonjour la chatroom. Comment ça va ?
Hello. Bah écoute, ça va. Je suis en forme. Moi, j'ai.
T'as l'air un peu mollasson là, Cédric. Faut mettre.
Mais non, pas du tout. Non. Vraiment, tout va bien. J'ai expérimenté ce week-end le rate limit de Twitter. Voilà, comme à peu près tout le monde, et ce sera notre premier sujet tout à l'heure. Mais ouais, c'est cool. Je suis révolté par plein de choses, y compris par Twitter et Elon Musk. Donc voilà, c'est génial.
C'est bien, on va pouvoir en parler. Avant ça, mais quand même, un grand merci aux Patriotes qui ont rejoint le groupe formidable des Patriotes de l'émission, notamment Alberti, Pierre Casuto, Kevin Charara, Francis Coop et Tecton ou Tecton. Merci à vous tous d'avoir été sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Un petit ajout de Patriotes juste avant les vacances, ça fait du bien, c'est fort sympathique. On a aussi les producteurs de cet épisode, SSI78 et Peter Rigal. Merci à vous tous, c'est grâce à vous que cette émission existe. Et du coup, eh ben écoutez, maintenant que les bonjours sont dits, on peut faire ceci. On peut faire ceci pour commencer à parler donc des trois sujets importants de la semaine, les trois sujets à retenir. Vous savez que désormais, il y a trois sujets majeurs, ou en tout cas les plus importants de la semaine. Et oui, aujourd'hui encore, on va parler de Twitter. Certains me disent « Oh, bah, si t'aimes pas, t'as qu'à pas en parler ». Là, en l'occurrence, c'est une fois où je pense que c'est complètement légitime d'en parler parce qu'il se passe vraiment des choses. Alors, deux choses essentielles. D'abord, Twitter, il y a quelques jours, a commencé à limiter la consultation de quoi ? De lui-même, de Twitter. C'est-à-dire que Elon Musk a implémenté des limites du nombre de tweets que pouvaient afficher les comptes. En différents types de comptes avaient différentes limites. Évidemment, les comptes les comptes vérifiés, payants, avaient des limites moins élevées, etc. Et donc, on a commencé à voir un petit peu partout sur Twitter des gens qui se plaignaient de ne plus pouvoir consulter Twitter. Ils pouvaient encore tweeter, mais sur Twitter et ailleurs, les gens ont commencé à dire « Mais que se passe-t-il ? J'ai un message d'erreur qui s'affiche, rate limit reached, et donc je ne peux plus afficher Twitter. » Et le problème, c'est que ces limites étaient tellement basses, du moins au début, maintenant ça va un petit peu mieux, que ça a affecté énormément de gens. Pour les nouveaux comptes, c'était limité à 300 par jour. Les comptes plus anciens mais non payants, 600 tweets par jour. Alors vraiment, quelqu'un qui utilise Twitter se rendra compte que 600 tweets affichés par jour, on a fait ça en une demi-heure, hein, même pas. Et les comptes vérifiés avaient beaucoup plus, 6000 posts par jour. La justification de Elon Musk, c'était qu'on avait une, un problème d'extraction de données, soit des outils tiers qui ne voulaient pas payer les nouveaux tarifs de l'API, soit des sociétés d'IA qui utilisaient le contenu de Twitter pour entraîner leurs IA. Enfin, on ne savait pas trop, rien n'est confirmé, mais lui, ce qu'il dit, c'est pour empêcher les applis tiers d'utiliser et de récupérer les données de Twitter. OK, pourquoi pas. Il y a des gens qui disaient, oui, mais c'est une histoire de facture impayée. Alors, pas forcément avec Google, les data centers de Google, parce qu'il semblerait qu'ils aient trouvé un accord alors qu'ils avaient arrêté de payer il y a quelques semaines. Mais certains disaient, oui, c'est AWS qu'ils n'ont pas payé, AWS, donc ils limitent l'affichage pour qu'il n'ait pas à payer plus. Rien de tout ça n'est confirmé. Une des choses les plus amusantes, une des conséquences les plus amusantes de ce truc, c'est que certains développeurs ont mis à jour un fonctionnement du site qui n'affichait pas les tweets, mais qui continuait à les demander aux serveurs de Twitter, les apps et le site. Et du coup, ils envoyaient les demandes parce qu'ils ne recevaient pas de réponse 10 fois par seconde, des demandes de tweets supplémentaires, ce qui fait qu'en quelque sorte, Twitter, par son codage de son site amateuresque, s'est auto-DDoSé. Ce qui est sans doute le self-own le plus incroyable de l'histoire du site. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a eu sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, c'est un bordel effroyable. Et avant de passer à l'autre partie intéressante de cette chose-là, toi, tu as expérimenté donc le rate limit, oui. Cédric. Moi, je ne l'ai pas eu. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que certains comptes sont épargnés. Moi, j'ai pu consulter.
Mais ah non, moi, j'ai eu très, très vite. C'était samedi, je crois. Et pourtant, je n'ai pas consulté beaucoup Twitter. Et je pense que j'étais victime d'un bug, en fait, aussi, hein, le fameux bug JavaScript, etc. Parce que alors, il a fallu que je change, que je passe après par mon navigateur pour accéder encore à des tweets, etc. Sachant que, pour l'anecdote, tu sais, j'avais testé Twitter Blue, qui, entre nous, vaut absolument pas le coup. J'avais testé un mois Twitter Blue, et je pense qu'en fait, tu vois, moi, typiquement, mon compte doit être flagué. Alors, comme tout est extrêmement opaque chez Twitter aujourd'hui. Tu vois, toi, tu avais un ancien compte vérifié, donc peut-être que le rate limit... Ça
alors non, moi, j'ai jamais été vérifié. Hein.
Ah, t'as pas été vérifié ? Ah
non,
ouais, ok.
Bah alors, pas eu ce...
Mais t'as jamais été Twitter Blue.
Non.
Donc du coup, moi, tu vois, peut-être que mon compte, étant passé par la case Twitter Blue, puis j'arrête de payer, et donc je repasse sur le standard, c'est pas qu'ils m'en veulent, mais peut-être que toi, t'as encore l'ancien statut, tu vois, des comptes qui n'ont jamais fait la démarche d'être mis à jour. Tu vois, enfin, c'est tellement opaque et tellement géré... Franchement, il y a une expression en anglais qui dit « running around like a headless chicken », mais c'est vraiment ça, en fait. T'as l'impression que Twitter, c'est le headless chicken. Ça court dans tous les sens.
C'est le headless,
ça fait des trucs complètement inefficaces.
Ouais,
c'est ça. Ça fait des trucs complètement inefficaces. Ça tape dans tous les sens. On va débrancher ça parce qu'on se fait attaquer par une IA qui scrape nos données. Et puis en fait, maintenant on a un bug puisqu'on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'appels serveurs qui étaient générés par nous-mêmes, un bug sur nos. Enfin, ça part dans tous les sens. J'ai jamais vu ça. En fait, c'est pas sérieux. En fait, ce que moi, ça me fait dire, c'est que, OK, Twitter, c'était devenu une usine à gaz. Et ça, je peux l'entendre. Mais au fur et à mesure des années, en ajoutant des fonctionnalités, en enlevant certaines, en ajoutant de la modération, des shadow ban, des shadow censure, etc., tout ce qu'on veut, c'était devenu extrêmement complexe et j'aimerais pas voir le code source de Twitter de peur d'avoir des migraines. Mais il y avait une équipe, certes, très importante pour maintenir tout ça. Elon Musk a voulu rationaliser en disant « j'enlève la moitié des gens et on verra ce que ça donne ». En fait, peut-être que la méthode pour gérer cet héritage technique aurait été peut-être pas de virer déjà la moitié des gens qui savaient comment ça marchait, en fait. Donc,
quelle idée révolutionnaire, en fait. Cédric.
Mais ouais, mais en fait, c'est je sais pas. Moi, c'est dommage parce que pendant un moment, j'étais révolté contre la façon dont Elon Musk gérait Twitter parce que j'aime ce réseau social. Même s'il a plein de défauts, on peut pas l'enlever. On peut enlever ça, hein, il a des défauts. Mais j'adorais ce réseau social. Et ce qu'il en a fait m'a profondément énervé. Et là, les derniers moments, je ne sais pas si on vit les derniers moments de Twitter, mais en tout cas, cette période de transition me fait maintenant mourir de rire de voir à quel point c'est complètement amateur. En plus, le rate limit en mode pour les blues, il y en a plus, etc. Mais je vous jure qu'en fait, si jamais un blue rencontre le même bug que moi j'ai rencontré, le rate limit, il est atteint, moi je l'ai eu au bout de quoi, une dizaine de minutes. Le rate limit, il est peut-être atteint au bout d'une heure, quoi, en fait. Ouais. Mais ça va hyper vite. Donc, c'est aberrant la façon dont c'est géré, en fait.
Alors, il y a plusieurs choses. Musk a dit que c'est une mesure temporaire. Alors, combien de temps temporaire, on ne sait pas, c'est une mesure temporaire pour limiter. Okay,
c'est tellement opaque. C'est incroyable. Ça navigue à vue. Enfin, mais comment on peut faire ces déclarations-là comme ça, en fait? Et je suis à peu près. Alors, là, c'est de la spéculation pure et dure. Mais la façon dont c'est fait, t'as l'impression qu'en fait, ils concertent personne. C'est genre, je vais balancer un tweet en disant, ça va être comme ça. J'ai décidé ça, je l'envoie à l'équipe technique, ils le mettent en place et machin. Est-ce qu'ils demandent à l'équipe technique, est-ce que vous pensez que mettre en place ça, c'est une bonne idée?
Tu comprends pas, c'est un maverick. Il a pas besoin de demander les règles aux gens qui font les règles, tu vois. Lui, il décide et après. Et dans l'ensemble, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et bon, peut-être que c'est le. Je me fais un tout petit peu une seconde. On va avoir quelqu'un qui arrive et qui sait. C'est l'avocat du diable. Ok, l'avocat du diable.
Il va y avoir un CEO.
Oui, bien sûr. Linda, je me souviens plus de son
nom. Elle fait quoi, en fait?
L'avocat du diable, quand même, je veux le mentionner, il est possible que le revers de la médaille du bordel et de ou plutôt l'envers de la médaille du bordel et du chaos, c'est qu'il faut dégraisser pour avoir des changements plus rapides, tu vois, et qu'on puisse prendre des décisions sans avoir à chaque décision de changer une virgule, 3 mois de délai parce qu'il faut consulter un tel et un tel et un tel et un tel. Oui, là, les décisions de Musk, elles sont arbitraires et chaotiques, mais au moins, les choses évoluent. Quand il veut quelque chose, et ça se fait en quelques jours, quelques semaines, et ça avance. Donc, c'est clairement un peu l'avocat du diable, mais je peux imaginer cette situation. À côté de ça, il disait donc c'est temporaire, on ne sait pas combien de temps, on verra. Il y a un changement sur TweetDeck, changement très important avec une nouvelle version, et TweetDeck devient payant. On va de plus en plus vers un produit Twitter qui est freemium, disponible gratuitement, mais également et surtout intéressant pour les gens qui payent. Moi, je n'ai toujours pas vraiment envie d'utiliser en payant, et pourtant, Dieu sait que je suis un gros utilisateur. Donc, TweetDeck a beaucoup évolué. D'ailleurs, la fonction Teams de TweetDeck n'est plus activée depuis l'arrivée de la nouvelle version. Bon, dans tous les cas, il y a d'autres choses aussi. On n'a plus, le droit de naviguer, de regarder les profils d'utilisateurs, les tweets, les threads, sans être logué dans Twitter. Donc tout ça encore, ça contribue à limiter, à réduire la quantité de consultations en fait, de Twitter, donc peut-être pour réduire les tarifs qu'ils doivent payer aux serveurs. Si c'est pour ça, vraiment, c'est une mécanique étrange parce que tu cherches à limiter...
Et augmenter le nombre d'utilisateurs aussi, tu vois. Enfin, il y a aussi ça.
Non, mais c'est ça le truc, c'est que tu cherches à limiter la portée de ton réseau. Et ça, c'est vraiment étrange.
Mais en fait, la stratégie, tu peux l'avoir de l'autre côté. L'objectif, c'est peut-être pas de limiter la portée de ton réseau, mais te dire, si les tweets ont une valeur, les gens sont prêts à s'inscrire pour ça. Et il augmente sa base de données et donc la valeur de la publicité sur sa plateforme, en fait.
Alors, la valeur de la publicité, je suis pas d'accord. La publicité, elle a de la valeur vraiment.
Si t'as plus d'inscrits, oui, bien sûr. Mais si t'as plus d'inscrits, potentiellement, t'as plus de chances de vendre de la publicité, tu vois. Un réseau social qui revendique 300 000 utilisateurs ou un qui en revendique 1 million, il n'a pas le même poids dans les négociations sur la pub.
Évidemment, mais les utilisateurs non logués, donc qui n'avaient pas de compte Twitter, étaient comptés comme des utilisateurs quand même, qui voyaient de la pub quand même. Et ça, c'est un changement qui est très important. S'ils commencent à dire, plus personne ne voit de pub, à moins d'être logué, ça limite beaucoup le nombre de dieux qui vont voir les pubs.
L'idée, c'est de dire, lui, en gros, je ne fais pas fuir les gens. Le fait que j'ai racheté Twitter, ma base de personnes inscrites a augmenté. Donc, les gens qui disent que Twitter est mort avec l'arrivée d'Elon Musk, voyez, vous vous trompez. Je pense que, basiquement...
D'une part, on ne sait pas si le nombre de personnes inscrites ont augmenté. Et d'autre part, le fait de définir le nombre... Est-ce qu'il vaut mieux avoir 300 millions d'inscrits à Twitter ou 500 millions de personnes qui regardent Twitter, tu vois, inscrites ou non.
Ah, mais bien sûr. Bien sûr.
À ce genre d'échelle, le truc qui fait tourner le truc, c'est
la pub. Mais tu peux avoir la pub.
Tu peux peut-être faire en sorte que tout à coup, les gens, et une grande partie des gens qui sont inscrits vont payer pour ton service. Et peut-être que c'est possible, mais ça n'a vraiment pas l'air d'être la direction que prend Twitter, là. Tu vois, c'est pas qu'il a créé un service payant tellement attrayant que tout le monde se met à payer. Moi, j'ai pas cette impression. Peut-être que je me trompe, mais... On parlait de Linda Iaccarino. Il semblerait qu'elle fasse du travail au niveau, justement, des annonceurs pour les faire revenir. Je pense que son travail a été compliqué ce week-end. Et également, qu'elle essaye de mettre en place un service de vidéos courtes. Et elle est en train d'aller essayer de convaincre des célébrités de venir utiliser ce service. Donc, est-ce que ça serait une forme de TikTok ou un truc comme ça sur Twitter ? Peut-être, on verra. Twitter, qui couvre des sujets très sérieux, qui utilise ce genre de format, c'est un peu casse-gueule, mais on verra ce que ça donne. Le plus important, la deuxième partie de cette discussion, et c'est pour ça qu'il était important de passer un petit peu de temps sur les conséquences pour le service Twitter de ce qui se passe vraiment depuis des mois, mais encore plus ce dernier week-end, c'est que ça peut ouvrir la porte à des concurrents. Et évidemment, tout le monde a commencé à penser à Mastodon, qui a également revendiqué un ajout d'utilisateurs ce week-end. Alors, ils ont moins d'utilisateurs mensuels qu'il y a à la grande époque de la migration. Ils étaient à 2,5 millions. Aujourd'hui, ils sont à 1,4 million. C'est pas rien. Mais enfin, c'est quand même un pet de mouche par rapport aux centaines de millions d'utilisateurs de Twitter encore. Blue Sky a continué à essayer de croître, mais ils sont encore tout petits et franchement assez vides.
Alors, j'aimerais bien une invitation.
J'essaierai de t'en envoyer une la prochaine que j'ai. je t'en enverrai une. Mais surtout, et c'est là qu'on veut en venir, parce que le gros truc qui est en train de se passer, on sait que Instagram est en train de développer une alternative à Twitter depuis des mois, et ils étaient censés la lancer à la fin du mois de juillet. Eh bien, il semblerait que ça a été branle-bas de combat au moment où ce dernier faux pas d'Elon Musk a provoqué le mécontentement des utilisateurs de Twitter, puisque l'application devrait être lancée dans 2 jours, le 6 juillet, au moment où on enregistre. Et c'est du coup l'arrivée peut-être du concurrent le plus sérieux, potentiel, on verra ce que ça donne, mais le concurrent le plus sérieux à Twitter, qui devrait arriver quelques jours après une énième débâcle, ou en tout cas un énième mécontentement des utilisateurs de Twitter. Il y a une mise en place ultra simplifiée pour les nouveaux utilisateurs, puisque vous utilisez votre compte. C'est une app complètement séparée, qui ressemble beaucoup à Twitter, qui utilise, semble-t-il, l'infrastructure Mastodon, mais qui est déjà pré-peuplée avec votre compte, donc votre compte Instagram. Si vous le souhaitez, les gens que vous suivez et qui vous suivent sur Instagram vont venir avec le compte. Et donc, c'est une sorte de Twitter exporté d'Instagram qui appartient à Meta et à Instagram. Là, pour le coup, je ne sais pas si les gens vont vraiment faire la transition ou faire la migration ou la commencer en tout cas, mais autant les mois précédents, je vous ai dit « Ouais, j'y crois pas trop, le prochain Twitter, c'est Twitter, même Mastodon, même Blue Sky, ils ont encore beaucoup de boulot pour réussir à faire transitionner tout le monde. » Là, je ne sais pas si ça va se produire, mais en tout cas, c'est la meilleure chance pour un concurrent qu'on ait eu depuis le début, surtout que Musk n'arrête pas de mécontenter ses utilisateurs, quoi. Donc, Threads, qu'est-ce que tu penses de Threads, toi ? Là, ça y est, on est à 2 jours du lancement.
Écoute, je l'attends avec impatience. Autant que le combat Musk-Zuck en MMA. Parce qu'en fait, je pense que si s'il y en a un, effectivement, qui peut réussir là où tous les autres ont échoué, c'est Meta. On le voit, même si Facebook est devenu l'ombre de ce qu'il était, et encore, il y a beaucoup d'utilisateurs. Hein, quand je dis l'ombre de ce qu'il était, c'est en termes de contenu. Je pense que là, cette espèce de pivot... Parce qu'en fait, Instagram, face à TikTok, sur le partage de vidéos, de stories, de shorts, de reels, de tout ce qu'on veut, a malheureusement perdu. Enfin, perdu, oui, a perdu, hein. Rappelle-toi quand Instagram disait ouais, dans l'algo. Alors, mais tu sais, rappelle-toi quand ils disaient dans l'algo, toutes les vidéos qui ont le watermark TikTok, ça te montre à quel point, en fait, Instagram était devenu le replay de TikTok, en fait. Tu vois?
Un peu, oui. Je crois que ça évolue quand même. Mais...
Oui, mais c'est dans ce sens que, pour moi, en fait, ils ont perdu, en fait, une partie du public. Les plus jeunes en particulier, ils les ont complètement perdus, Insta. En fait, ils sont sur TikTok.
Ouais.
Et le fait que en gros Meta fasse un espèce de mini pivot qui est sans être un pivot, puisqu'en fait, on garde quand même Insta. Hein,
oui, c'est une branche séparée, quoi, parallèle.
Mais en fait, c'est une façon même de présenter Instagram de façon différente. Mmh. En gros, on va passer du réseau social cher à Jérôme Kainborg qui disait c'est le Twitter de l'image. Rappelle-toi, au tout début, on postait que des images avant de mettre des commentaires, puis du texte, puis des machins, etc. En fait, c'est une façon de consommer Instagram et des contenus qui va se rapprocher effectivement de ce que fait Twitter.
Moi, le seul truc, c'est complètement séparé d'Instagram. Hein. Ils utilisent l'infrastructure derrière, mais ouais.
Mais bien sûr, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu regardes le fait que tu aies déjà des gens que tu suis sur Insta, qui vont s'importer automatiquement, etc. Tu as la sensation qu'au début, en tout cas, ça va ressembler beaucoup à un clone d'Insta avec juste le texte mis en avant par rapport aux photos. Tu vois, en gros, les commentaires sous les photos vont être mis en avant avant la photo. Mais on inverse un peu le truc, tu vois.
Les deux réseaux seront séparés en ce sens que si tu postes une photo, pour que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent, si j'ai bien compris, hein. Quand tu postes une photo sur Instagram, ça n'a aucun impact sur ce qui se passe sur ton compte, sur Threads. Ça utilise le même compte, mais ça n'est pas le même contenu du tout. Les réseaux sont entièrement séparés.
Oui, mais tu vois arriver donc, le partager en même temps sur... Comme ils font avec Facebook. Quand tu postes une photo, ils vont juste rajouter Threads. Mmh. Et autant te dire qu'en fait, en gros, Meta est en train de dupliquer...
Ouais. Peut-être, je ne sais pas s'ils vont faire ça.
...en plateforme. Moi, franchement, je suis à peu près à parier là. Ça va être comme ça, et peut-être même dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que tu postes sur Thread, s'il y a une photo, ils te proposent de la mettre dans Insta aussi, tu vois.
C'est possible, mais le problème, c'est que pour le coup, ça tuerait l'utilité parce que ça serait juste une duplication d'Instagram.
Ils peuvent échouer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là où ils peuvent échouer, c'est-à-dire que si c'est juste une duplication, pour moi, c'est pas la solution. Ouais. Si par contre, on est sur vraiment quelque chose qui se rapproche de ce que fait Twitter en fait. Là, on a peut-être effectivement un sérieux concurrent. Moi, j'y croyais pas trop en me disant c'est Meta, on a déjà craché suffisamment sur Facebook avec toutes les conneries qu'ils ont faites par le passé, les Cambridge Analytica et j'en passe, pour retomber dans le piège une nouvelle fois parce que, en fait, on se dit c'est pire chez Twitter. Mais en fait, chez Twitter,
c'est vraiment ça. Pire tu fais bien de le mentionner et on l'aurait mentionné dans tous les cas.
Mais c'est ça, mais est-ce que c'est pire chez Twitter au point de se dire « je vais aller faire confiance à Zuckerberg » Tu vois
je ris extérieurement, mais j'en pleure à l'intérieur. Hein. Je pense
mais bien sûr, c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on se dit « on veut continuer à utiliser les réseaux sociaux, à partager notre contenu, etc. » Et en même temps, on se dit « on est en train de faire le jeu de gens qu'on n'arrête pas de critiquer parce qu'ils font des choses qui sont parfois pas éthiques, en fait. » Du coup, c'est le vrai problème. On est face à un vrai cas de conscience.
Ouais.
On doit choisir entre la peste et le choléra, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça.
Je dirais que et en plus Facebook Meta, s'ils réussissent ce hold-up sur Twitter et j'utilise Twitter presque comme nom générique sur un Twitter, s'ils réussissent ce hold-up sur Twitter, profitant des erreurs d'Elon Musk pour se glisser dans le truc juste au bon moment. Ça veut dire que, et s'ils réussissent ce coup-là, ne serait-ce qu'en capturant 50% de la part de marché, du marché Twitter, entre guillemets, ils auront Facebook, Instagram, WhatsApp, n'oublions pas WhatsApp, hein, qui est hyper important aussi, et Twitter, et leur Twitter. Ça serait une quantité de pouvoir sur la communication dans les réseaux sociaux qui serait monumentale. Pour faire un tout petit peu, pour ramener le gentil, pour le ramener un tout petit peu, entre Twitter et Facebook, alors même si, après avoir fait le fier par rapport aux régulations et aux lois, Elon Musk semble derrière les rideaux dire « si, on va le faire comme il faut, on va suivre les lois, machin », on a quand même beaucoup plus de volonté d'essais, je pense, sincères de la part de Meta. Respecter les lois, essayer de faire ce qu'il faut pour la modération. Alors, ils y arrivent toujours.
Ils m'ont fait taper dessus.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, au moins, ils essaient. Ils ont des équipes qui modèrent, ils ont des règles d'utilisation cohérentes. Et la manière dont ils vendent, entre guillemets, Threads, ce qui est d'ailleurs threads.net, si vous voulez avoir les détails, c'est que c'est une sorte de Twitter, mais géré sainement, géré de manière cohérente. Bon, après, on a d'autres détails sur l'aspect Fediverse. Il semblerait, Fediverse, hein, le réseau qui inclut plein de réseaux différents, dont Mastodon, PixelFed, etc. Eh bien, l'application serait une instance du Fediverse, mais pas connectée au reste du Fediverse, au moins pour le moment. Et peut-être que c'est comme ils étaient censés lancer fin juillet, pour lancer 3 semaines plus tôt, ils ont été aussi vite que possible. Ça a été le feu dans leur bureau et ils ont limité les fonctionnalités avec certaines qu'ils implémenteront plus tard. Mais bon, moi je me dis peut-être, enfin en tout cas moi évidemment je vais l'essayer, hein, et pas juste pour le boulot, parce que je veux un Twitter
qui fonctionne. Non, mais moi je vais l'essayer sérieusement par contre. Je dis pas que j'en ferai mon réseau social principal, mais je vais l'essayer sérieusement. Et j'ai un petit espoir là-dedans, tu vois, en me disant peut-être que ça va faire bouger les choses chez Twitter, à minima. Et tu vois, que ça soit un espèce d'électrochoc où ils se disent vraiment, je suis en train de faire des conneries. Mais tu vois, la sortie sur les 6 et 6 genres en disant maintenant c'est une insulte sur la plateforme, machin, nanana.
On en parlait la semaine dernière.
Ouais, je vais respecter la loi. Ouais, j'ai écouté l'épisode. Et. J'ai juste envie de désinstaller l'app, en fait, quand j'entends ce genre de truc. Ça me fatigue, en fait. Ça me fatigue, c'est-à-dire que c'est devenu son outil politique. Tu sais, c'est les méchants dans James Bond, quand ils achètent des médias. Tu sais, il y avait un méchant, là, dans James Bond, qui avait plein de médias et qui, en gros, influençait la Terre entière. Et son pouvoir à lui de nuisance, en fait. Dans un, je crois, avec... j'ai oublié son nom.
Ouais.
Enfin, bref. Et en fait... J'ai l'impression que c'est ça. Non, c'est pas Craig, c'était avant.
Ah, Timothy Dalton.
Pierce Brosnan. Non, c'est... non quand même, doucement, je suis vieux, mais il y a des limites.
Non, mais si tu veux, c'est un peu... Enfin, Murdoch, il n'a pas attendu James Bond. Hein. Il est un petit peu plus discret.
Bien sûr.
Il le fait un peu plus...
Exactement. Sauf que là, ça se voit fort, en fait. Ouais. Et quand tu vois que toute l'extrême droite américaine se jette sur... sur Twitter, sur les certifs blue, sur le machin, etc. En fait, il y a des moments où je me dis, est-ce que Elon Musk n'est pas un génie du mal du génie du mal ? C'est-à-dire que il sait que ces gens-là ont besoin de s'exprimer et en gros, il le fait pour eux sans vraiment le penser. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que au fond de lui, la alt-right américaine, ils s'en foutent réellement, mais il se dit il y a du pognon à se faire en tant que businessman, je vais vraiment jouer le jeu, tu vois, jusqu'au bout.
Alors,
moi, je sais pas à quel point.
Non, mais je sais pas directement avec Twitter, certainement pas, mais peut-être que
non, mais,
en faisant,
tu vois,
en poussant
les bons partis
dans ses autres boîtes, il aura peut-être moins de problèmes.
Et bien sûr, et en fait, je sais pas à quel point il est politisé au point de se dire je pense vraiment ce que je dis, tu vois.
Bon. Écoute,
ou est-ce que je le fais par intérêt, tu vois, bon voilà.
On continuera cette discussion dans pas longtemps. Alors la semaine prochaine, il y aura un épisode normal animé par d'autres. On verra le résultat que ça aura donné pour Threads avec son lancement le 6. Un autre sujet que je voulais évoquer, c'est cette histoire. On a eu, après les vagues de d'IA générative, de plus en plus de sujets qui avaient à voir avec la manière dont l'IA peut remplacer le travail de certains. Là, on a un sujet qui est quand même assez intéressant dans ce domaine. C'est des acteurs voix, spécifiquement, qui se retrouvent en concurrence avec des versions de leur voix générées par IA. En concurrence, c'est-à-dire que des sociétés qui veulent faire lire des trucs doivent choisir entre un acteur voix spécifique qui est un acteur et une IA qui a utilisé la voix de cet acteur pour être générée, pour générer une IA synthétique, enfin une voix synthétique. Et la raison pour laquelle ça peut arriver et les acteurs se retrouvent à auditionner et en face dans le booth t'as le robot qui parle avec sa voix parce qu'il a... Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, on a commencé à faire signer des contrats pour les acteurs voix, pour utiliser leur voix et pour utiliser leur voix en perpétuité pour toutes les utilisations possibles, notamment avec un service de IBM. C'est l'exemple que donne l'article en 2005. Donc, c'était pour un système de navigation par satellite. Donc, on a enregistré la voix et on a dit « Ok, vous donnez les droits à votre voix pour tout, pour toute la vie, pour jusqu'à la fin des temps. » Ok, c'est pour utiliser pour un système de satellite. On ne pouvait pas imaginer que ça allait être utilisé pour recréer des voix synthétiques. Eh bien, en l'occurrence, oui. Et aujourd'hui, elles ont été utilisées, ces voix, pour créer des clones IA qui, comme on en parlait, rien que la semaine dernière, on avait donné un exemple de ce que ça pouvait donner quand c'était bien travaillé. Ça a donné un résultat qui est tellement convaincant que ça peut être choisi plutôt que l'acteur original. C'est une nouvelle implémentation de tous ces problèmes que pose l'IA dont on parle, enfin que pourront poser l'IA dont on parle depuis des mois. On le constate encore une fois, c'est pas dans un an, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, c'est maintenant et ça se produit déjà, quoi. Imagine, t'es acteur de voix et tu dis bon, je fais un essai pour tel rôle ou tel livre ou faire telle voix. On dit, oh non, en fait, on va choisir plutôt la voix synthétique, là. Et tu... Mais c'est moi ! C'est moi !
Et justement, il y a un épisode de Black Mirror de la dernière saison. Je crois que c'est le premier. Mm-hmm. En fait, toute la saison est basée un peu sur un service de streaming type Netflix. Et ils produisent une série dont la protagoniste, en fait, sans tout spoiler, mais en gros, elle passe une journée normale et le soir, ils lancent une série qui en fait est une série basée sur sa vie, elle revoit sa propre journée en fait. Mmh. Tu vois, et sauf qu'en fait ils ont un peu réécrit le truc, du coup elle passe vraiment pour une méchante, etc. Enfin voilà, avec Salma Hayek d'ailleurs l'épisode. Et en fait c'est pas Salma Hayek qui joue, c'est une IA et des images générées de Salma Hayek avec sa voix, son style de jeu, etc. Et à un moment la fille, l'actrice, pour essayer de casser le contrat, parce qu'en fait elle sait qu'elle devine qu'il y a un contrat avec Salma Hayek qui joue son propre rôle, etc. Et elle décide de faire un truc que Salma Hayek n'aurait jamais accepté de faire. Je veux dire, comme en fait il rejoue au fur et à mesure sa journée, etc. Ouais. Donc elle fait un truc horrible que en plus, vu l'heure de manger, je pense qu'il vaut mieux pas en parler. Et ça serait un spoil en plus. Donc elle fait ce truc là et Salma Hayek, du coup la vraie Salma Hayek, va dans le cabinet d'avocat et dit « Mais attendez, j'ai vendu mon image, mais pas pour qu'il se passe ça, machin, etc. » quoi. Et ils disent « Mais en fait, si, dans les petites lignes, il y a écrit que comme c'est pas vraiment vous… » Enfin, voilà. Il y a tout un truc autour de là-dessus, sur ce sujet-là. L'épisode, en fait, est assez sympa à regarder. Et justement, en fait, ça pose ce problème-là, du deepfake, parce qu'en fait, là, on parle de la voix, mais demain, c'est l'image, en fait, tu vois. Ils sont juste un peu plus en avant dans Black Mirror. Mais en fait, il y a la question des droits. Combien est-ce qu'elle prend pour le tournage d'une série, de l'utilisation de son image, etc. Et en gros, la vraie problématique, c'est que derrière, il ne va plus jamais y avoir de renouvellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la base de données des acteurs et des voix, en fait, on aura ad vitam aeternam jusqu'à la fin de notre existence Tom Cruise dans Mission Impossible, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Comment tous les acteurs vont percer avec ça?
C'est sûr.
Que Tom Cruise, il fait vendre vachement dans Mission Impossible.
Oui, je pense que les gens pourront se lasser un petit peu aussi, on verra ce que ça donne. Mais alors, d'une part, deux choses. D'une part, moi, je suis assez preneur de revoir ma journée, mais tu vois, améliorée. Genre, je passe ma journée, puis je suis un petit peu fatigué, il y avait des trucs pourris qui se sont passés. Je revois une version d'une heure de ma journée le soir, au lieu de regarder une série, tu vois, avec d'autres gens. Je revois, mais une version genre super améliorée de ma journée. Genre, tout se passe bien, tout le monde m'aime, tout ça.
Dans le rôle de Patrick.
C'est ça.
Comme acteur dans le rôle de Patrick.
Avec quel acteur ? Tom Cruise ? Ouais. Non, mais moi, vraiment, juste moi, tu vois, en mode...
Le chat, en commentaire, dites-nous quel acteur pourrait jouer Patrick dans le remake de sa vie.
Non, mais moi, je veux, tu vois, genre, on t'a filmé, on t'a vu, mais tout s'est super bien passé. Tout le monde t'adore, tes enfants t'aiment, tu as du temps pour jouer à Street Fighter, tu vois, genre la vie idéale, quoi.
Ouais, mais
donc ça, c'est d'une part... Et puis d'autre part, ce qu'il faut signaler, encore plus important que ces histoires d'IA qui prennent le rôle de certaines personnes, c'est que tout ça, en fait, c'est des raisons d'aller défricher et même établir le cadre légal dans lequel tout ça peut fonctionner. On a des choses qui changent un petit peu chaque jour presque. On a une action en justice aux États-Unis qui va déterminer la manière dont les IA peuvent utiliser les données privées, par exemple. Enfin, c'est en train d'être défriché tout ça. Moi, je ne suis pas convaincu. Disons que je ne veux pas dire que on n'arrivera jamais à une situation où quelqu'un va vendre sa voix ad vitam pour créer des IA. Mais par contre, ça ne sera pas en fufu dans un contrat de 2005 pour des systèmes de satellites de navigation. Ça sera un truc qui coûtera beaucoup plus cher parce que tu vends ta voix à jamais, ça peut te remplacer complètement. Donc, peut-être que tu vas avoir des royalties sur l'utilisation pour accepter de vendre ça, tu vois.
À chaque utilisation, tu touches des royalties et je pense que c'est comme ça que le truc va être monétisé. Oui, mais sinon, ça n'a pas de sens. Par contre, ça veut dire que ça va être hyper rentable d'être voix off. Hein.
Hyper rentable, je ne suis pas sûr. Parce que le problème...
Tu vas pouvoir le faire dans plein de langues, sur plein de projets en même temps, là où avant, tu pouvais faire qu'un projet dans la journée, quoi, tu vois.
Ouais. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va amener ce genre de possibilités à des projets qui n'en avaient pas la possibilité, tu vois. Au-delà de tous les problèmes, c'est que des trucs où on ne pouvait pas avoir de la voix, par exemple.
Les jeux vidéo.
François Cluzet, Alexandre Astier, Tobey Maguire, il n'y a rien qui me plaît là-dedans. Hein.
C'est vrai, Tobey Maguire, ça ne te plaît pas ? Il avait les mêmes lunettes que toi dans le Spider-Man, tu sais, au début, quand il se fait piquer par l'araignée.
Je suis pas...
Ok, ok.
Bon. Dernier gros sujet de la journée, c'est le pub challenge de TikTok. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit ?
Oh ben, c'est une façon de faire de l'influence rémunérée.
Mais de manière assez intelligente, je trouve.
Oui, c'est assez intelligent. En fait, la façon dont c'est fait, en fait, intelligent, je sais pas, encadré, oui. Et c'est ça qui est intéressant.
Ce qui se passe, c'est un nouveau moyen de monétisation sur TikTok. C'est moi qui l'appelle Pub Challenge. Hein. C'est pas comme ça que ça s'appelle. C'est TikTok Creative Challenge. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est des marques qui vont avoir la possibilité de proposer à des créateurs de leur faire des vidéos sponsorisées, rémunérées, avec peut-être un pitch ou un sujet, etc. Donc, une marque dit... Moi, je voudrais avoir une publicité sur ce thème ou qui parle de ce produit de cette manière. Les créateurs peuvent faire des vidéos, proposer ces vidéos TikTok aux marques et les marques peuvent les accepter et les lancer comme pub dans l'application TikTok. Et du coup, le revenu est partagé entre TikTok et les créateurs et l'annonceur a sa pub qu'il a choisi, qui a été faite spécialement pour lui et qui est a priori de qualité, qui est adaptée à TikTok, qui est faite par des créateurs, etc. Je trouve ça assez malin de plusieurs manières. D'une part, c'est un nouveau moyen de monétiser pour les créateurs au sein de l'app avec l'écosystème. Ça fonctionne sur le principe qui est établi depuis très longtemps pour ce type d'application, que ce soit YouTube ou Twitch ou TikTok. Bah, le fait de faire des partenariats externes, ça existe depuis longtemps. Là, ça le ramène en interne. Ça permet à TikTok d'en bénéficier, alors que ça se passait en externe généralement. Et ça simplifie l'écosystème et la plateforme pour monétiser pour ces créateurs. Alors, il faut avoir plus de 50 000 utilisateurs. C'est seulement aux États-Unis aujourd'hui. Il faut qu'ils aient plus de 18 ans, etc. Il y a des conditions. Mais c'est quand même hyper malin comme système, je trouve.
Oui, c'est malin. Mais en fait, ça fait, c'est l'ubérisation des agences de com, en fait. C'est-à-dire que plutôt que de passer par une agence de com qui ferait ta campagne publicitaire, etc., avec des équipes de tournage et compagnie, bah, en gros, tu dis aux gens, bah, vous êtes sur la plateforme, vous connaissez les codes, aussi bien que les agences, finalement, puisque bah, vous avez une grosse communauté, parce que, c'est, comme tu dis, c'est pas ouvert à tout le monde. Bah, du coup, produisez du contenu publicitaire et vous serez rémunéré pour. C'est vraiment ça. Et je crois que c'est Matt Eleven qui, justement, dans le chat, disait hashtag ubérisation. Je pense que c'est ça. C'est l'ubérisation du métier de publicitaire sur TikTok, en tout cas. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Je sais pas. En tout cas, pour les créateurs, c'est une autre façon de gagner de l'argent. Je t'avoue que moi, je suis un vieux de... Je suis un vieux, moi, tu sais. Le principe de l'éthique me fait dire que quand tu fais... Alors, tu vois, je ne suis pas dans le même domaine, mais je t'avoue que moi, à chaque fois que j'étais invité à des... C'est pour ça que j'étais invité plus nulle part, en fait, parce que je ne jouais pas le jeu de la promotion pour rester le plus neutre possible. Et quand j'avais envie de dire qu'un truc n'était pas bien, je le disais. Mais là, me dire, je vais carrément participer au challenge. Enfin, au challenge.
Bah, t'es pas obligé, hein.
Cours de création. Non, mais.
Tu peux dire, citer un influenceur beauté, tu peux faire faire une pub pour Samsung, c'est pas challengeant pour ton éthique.
Non. Voilà, mais oui, mais là, l'exemple que tu donnes est OK. Ouais. Mais je pense qu'il y aura d'autres exemples, et on en connaît, de gens qui vont être, par exemple, dans la tech et qui vont faire de la publicité pour de la tech, en fait.
Alors,
et c'est là que du coup, après, je me dis à quel moment, quand ensuite ça sera plus de la publicité, la vie sera neutre, étant donné qu'ils auront été choisis comme publicité officielle, je sais pas moi, pour Bouygues Télécom ou Samsung.
Ouais, mais
je
ça,
ne sais
ils
quoi.
Ont pas attendu, ils ont pas attendu ce
Bien
système.
Sûr, ils
tu
ont
vois,
pas
le...
attendu ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça rajoute, je trouve, encore plus de problématiques autour de justement de la gestion de l'influence, etc. Enfin, on l'a vu, tous les scandales qu'il y a eu ces derniers temps, on ne va pas revenir sur l'affaire de Booba et compagnie, mais...
Alors, Booba, je connais pas bien l'affaire, j'avoue, mais je ne sais pas si tu as vu le truc des visites de Shein, je crois qu'on dit Shine en français, de la visite de l'usine de Shein par des influenceuses, c'était sur... je crois que c'était sur TikTok, justement. Qui a été une catastrophe. Ils ont visité une usine en Chine où tout va bien, tout est magnifique, tout est
mais
pourtant.
Oui, en fait, mais voilà. Une usine.
Mais bon, à mon avis, pour ce qui est de l'ubérisation, oui, évidemment que ça va avoir une influence. Je pense que les gros créateurs, ils vont quand même, tu vois, si TikTok prend, j'en sais rien, 20%. Ça, quand tu as une certaine taille, tu vas travailler directement avec les marques et tu vas garder les... Ou alors travailler avec une agence qui va te prendre 10 plutôt que les 20 de TikTok. Donc, pour je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Mais l'idée...
C'est pas idiot. Non, l'idée n'est pas bête, mais ça fait quand même se poser 2-3 questions en fait, sur tout ça. En fait. Bon,
Moi, je pense que
ça.
C'est...
Après, l'idée, c'est, tu vois, peut-être dans une autre vie, j'aurais accepté et j'aurais même fait des pubs parce qu'il y a des produits que j'aime beaucoup et je me dis, tiens, si je peux être dans la prochaine pub TikTok de, je sais pas moi, d'un vélo ou d'une voiture ou je ne sais quoi que j'adore, pourquoi pas, tu vois.
C'est ça, peut-être que tu peux quand même, ce truc, tu peux l'utiliser en ne faisant pas de pub pour le domaine que tu couvres, si tu es
tout à fait
éthique. C'est une marketplace, en fait, de la pub au sein de TikTok. Et ça fonctionne. Ça pourrait moins fonctionner, je crois. Ça serait possible que ça fonctionne pour YouTube. Mais là, les vidéos sont tellement courtes que c'est encore plus facile de les valider, de voir, de dire est-ce que tu peux changer ci, changer ça, je sais pas. Mais les vidéos plus longues sur... Et puis en plus, là, ça va être des vidéos sur le produit. Ce n'est pas une promotion intégrée à une vidéo sur autre chose, comme c'est le cas souvent dans les vidéos sponsorisées sur YouTube, par exemple. Donc, pour la plateforme, ça correspond. Donc, je trouve ça malin. Ça n'enlève pas, effectivement, tous les problèmes que tu as mentionnés.
Ça peut poser à côté, oui.
Est-ce que vous savez quel est le meilleur moyen de faire de la pub pour le rendre... Non, c'est pas ça. Vous voulez intégrer la plateforme de soutien...
Ouais, mais appelle la communauté à te créer des publicités pour Patreon. Tu vois, tu leur dis, moi, je vous sélectionne et vous devenez la publicité officielle du Patreon.
C'est ça, c'est une bonne idée. Est-ce que vous êtes un créateur de talent qui a au moins 50 000 abonnés sur TikTok? Vous pouvez faire une publicité pour Patreon. Quelle meilleure publicité? Vous pouvez faire, par exemple, une vidéo sur Kling Patrick. Vous mettez les clés dans un bol, mais de manière drôle. Parce que dire, quand vous mettez les clés dans un bol, vous pensez à Patrick, et donc vous allez sur patreon.com/rdvtech et vous soutenez le rendez-vous tech, c'est chiant. Il faudrait trouver un moyen de le dire de manière beaucoup plus drôle, intéressante, peut-être visuel pour faire de la pub sur Twitter, TikTok, Instagram, Mastodon, partout. Et pour ça, eh bien, vous êtes ceux qui peuvent, celles et ceux qui peuvent bien mieux le faire que je ne le fais moi. Trois éléments, un bol, des clés et patreon.com/rdvtech. Et là,
le
vous me faites quelque chose. Le kick challenge Pourquoi kick?
Le kick challenge. Mais pour les clés, en fait, qu'on jette dans
le bol. Ah, le kick challenge, ouais, c'est ça. Le kick challenge. Comment bien faire une pub pour le Patreon du Rendez-vous Tech. Merci à vous tous et vous toutes qui soutenez le Rendez-vous Tech. Et on continue avec le reste de l'actu. Avec le reste de l'actu, où on va parler, par exemple, de vidéos de YouTube. Spotify pourrait être en train de mettre un pied vraiment dans la vidéo avec des clips qui seraient intégrés à l'app Spotify. Ça sent le début d'une fonctionnalité vidéo pour Spotify, au-delà, parce que juste mettre des musiques des clips pour musique, pas certain de l'intérêt. Mais par contre, si tu commences par ça et que tu vas te mettre à mettre de la vidéo au-delà de la musique, mais est-ce qu'on accepterait d'avoir autre chose que de la musique dans Spotify ? C'est pas pour ça qu'on y va, je sais pas.
Ouais. Bah, je t'avoue que ce move-là, alors pour de la musique, des clips musicaux, ok, il pourrait y avoir des interviews d'artistes, des retransmissions de live de concerts et ce genre de trucs, tu vois, ou des replays de live et tout, ça ouais, j'y crois. Mais par contre, autre chose, déjà tu vois, le podcast, ça a du sens parce que ça reste de l'audio, etc. Mais si demain ils se mettent à proposer des vidéos à la YouTube, je crois qu'on perd en fait l'essence même de ce qu'est Spotify en fait.
C'est moi qui spécule pour dire que ça irait au-delà des clips, mais ça me paraîtrait étonnant qu'ils ne fassent que les clips. Les concerts, ça serait intéressant, les interviews, tout ça, oui, il y aurait de quoi faire. Possible. À San Francisco, la police, on parle de San Francisco, mais il y a d'autres villes, la police est en train d'utiliser de plus en plus la possibilité d'avoir des images de vidéos de voitures sans chauffeur qui conduisent dans la ville avec les caméras. Et les caméras, évidemment, elles sont utilisées à la base pour orienter la voiture, pour conduire la voiture, mais les voitures en question conservent, et les sociétés conservent les images, certainement pour des questions légales et de sécurité, et bien la police est en train de demander les images de ces véhicules dans le cadre de crimes qui peuvent être commis ici ou là. C'est un petit peu... Alors, il n'y en a pas partout encore des voitures, mais le jour où il y aura des voitures partout, il y a des grands débats sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, de la surveillance vidéo, etc. Le jour où il y aura des voitures sans conducteur avec des caméras partout dans les villes, si ce jour arrive, du coup, ça veut dire que tu peux à peu près demander à n'importe quel moment les images de n'importe où et avoir un enregistrement de tout ce qui se passe dans toute la ville, quoi, à tout moment.
C'est ça.
Quasiment, j'exagère.
C'est des drones, mais en fait, il y a déjà des caméras qui roulent, ça s'appelle des Tesla. Et d'ailleurs, le mode sentinelle, quand tu es garé, quand tu t'approches d'une Tesla qui a activé le mode sentinelle, en fait, tu sais, t'as un œil qui apparaît, tout ça, et en fait, ça active les caméras, et en fait, t'es filmé. D'ailleurs, je me demande à quel point c'est légal de filmer la voie publique, mais bon,
je crois
ça
pas c'est que ce soit illégal.
Et je sais pas. En tout cas, pendant un temps, ça l'était. Tu pouvais pas installer une caméra devant chez toi qui filme la rue. Tu vois. Donc après, peut-être que filmer 360 autour de la Tesla, ça l'est en France, mais Bref, mais j'ai un ami à moi, quand il passe à côté d'une Tesla, enfin une connaissance plus qu'un ami, il passe à côté d'une Tesla et que le Sentry Mode s'active, il montre ses fesses aux caméras en fait. Et il se dit, le propriétaire du coup aura au moins, verra au moins mes fesses, voilà. C'est une façon comme une autre de s'amuser du fait que ça filme en permanence. Mais tu vois, demain typiquement, Tesla pourrait proposer un peu comme ce que fait Ring d'Amazon aux États-Unis. Tu sais, la police peut avoir accès aux images des sonnettes connectées Ring ou des caméras
qui filment la rue, oui, qui ne filment pas juste devant ta porte. Mais...
Tout à fait. Mais imagine, oui, parce qu'en fait, la caméra est orientée, elle filme la rue, quoi. Mais imagine demain si ils ont accès aux caméras des Tesla qui circulent, sachant qu'il y en a un paquet maintenant de Tesla. Ça.
Non, mais Tesla, je suis sûr qu'ils peuvent demander aussi à Tesla. Enfin, s'ils demandent à Waymo et à Cruise et à toutes ces sociétés.
Et surtout que l'accès est à distance. Voilà, l'accès est à distance. Sur les propriétaires Tesla peuvent afficher les caméras en temps réel sur leur smartphone. Ouais. Donc imagine, la police pourrait faire ça, quoi. Genre, il y a un crime signalé dans un endroit, on regarde, ah, il y a une Tesla, hop, on a accès à la caméra, on voit.
Tant qu'il y a, c'est encadré par les juges, ça me dérange moins, même si l'omniprésence, forcément, ça peut mener à des excès et des dérives. Mais tu vois, là, c'est pour des crimes qui ont été avérés dans des régions spécifiques et avec... qui nécessite le regard d'un juge qui va délivrer le mandat. Ça, du coup, ça me rassure parce que bon, bah, les pouvoirs sont respectés, il y en a un qui check l'autre et voilà. Ça m'inquiéterait beaucoup plus si c'était juste, comme on a pu le voir parfois sur, chez Ring notamment, les services de police qui ont un site sur lequel ils cliquent et disent « Alors, je voudrais l'image d'ici et de là, sans aucun contrôle, sans rien. » Donc, bon, on continue.
Et tu vois, regarde, je viens de poster un article, juste pour l'anecdote, donc, qui date du 7 avril, hein, où en gros, des employés de chez Tesla partageaient secrètement des vidéos filmées à l'insu des constructeurs. Des conducteurs, pardon. Et y a vraiment, en fait, ce truc de... Moi, ça me dérange un peu, en fait, d'avoir ces caméras qui... Tu vois, en fait, quand c'est ta propre voiture, en plus, et que t'es filmé... Enfin, bon... Et c'est pour ça que moi, je me pose vraiment des questions sur la légalité de ce système-là de caméras sur les Tesla, en fait, qui filment la rue.
L'euro numérique, tiens, il y avait un article intéressant dans Numérama, qui posait des questions sur l'euro numérique. Je vais vous le faire en version courte. L'euro numérique, ce n'est pas une crypto-monnaie comme les bitcoins, etc. C'est une sorte... Bon, ça utilise les technologies de la blockchain et des crypto-monnaies, mais pour dupliquer le fonctionnement du cash avec des outils numériques. C'est-à-dire que vous auriez un portefeuille virtuel dans votre application... dans votre téléphone, une application de portefeuille virtuel, et vous avez 100 euros numériques dans cette application, et ben, quand vous transférez les 100 euros vers un autre portefeuille, il quitte virtuellement vraiment votre portefeuille pour aller dans le portefeuille d'une autre personne. Ce n'est pas comme le jeu d'écriture dans les comptes en banque où quand on retire de l'argent, bah ça connecte au compte du compte en banque et ça dit « alors maintenant, retirez de ce compte telle somme et donc on va vous donner des sous, on fait l'échange comme ça ». Ce n'est pas le même fonctionnement. C'est vraiment une version numérique de vraies pièces ou de vrais billets qu'on peut s'échanger. Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Comme je le disais, je vais la faire courte. En fait, la raison pour laquelle l'Europe travaillent vraiment sur ce projet, c'est pas tellement qu'ils sont sûrs de vouloir l'utiliser, c'est que à terme, il sera peut-être nécessaire de l'utiliser et il vaut mieux être prêt. Pourquoi est-ce que ça pourrait être nécessaire ? Imaginons par exemple que la Chine qui travaille sur un yuan numérique, ou je ne me souviens plus du nom, mais d'autres pays qui travaillent sur ces projets-là, si l'utilisation de ces monnaies-là se répandent et peut-être se répandent dans le monde et peut-être même en Europe, pourquoi pas ? Parce que c'est plus pratique, parce que ça fonctionne bien, parce que ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec le cash ou avec les écritures bancaires. Et il faut que l'Europe ait une solution, pas de repli, mais une solution alternative pour ne pas perdre la souveraineté sur la monnaie qui est évidemment hyper importante. Donc, l'article est intéressant, je le mettrai dans la newsletter, mais voilà la raison pour laquelle il faut travailler là-dessus. La CMA en Angleterre, l'autorité de régulation des marchés et de la concurrence, serait en train de réfléchir à proposer de bloquer l'acquisition de Figma par Adobe. On en avait parlé au moment où ça avait été annoncé, j'avais déjà fait la remarque à l'époque. Autant je ne suis pas convaincu par les arguments qui concernent l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, parce que pour moi, l'idée de monopole n'est pas aussi importante, enfin n'est pas aussi justifiée. Autant Adobe qui rachète Figma pour 20 milliards de dollars, c'est vraiment le plus gros acteur du marché du design assisté par ordinateur, qui rachète un concurrent et un concurrent potentiel. C'est vraiment textbook rachat de concurrent, là. Et si on veut empêcher ce genre d'opération... T'es d'accord, hein ?
C'est pas vraiment. Non, non, je suis pas vraiment d'accord. Parce qu'en fait, Figma, c'est un logiciel de la suite Adobe. C'est-à-dire qu'il est en concurrence avec Adobe XD, mais pas avec Photoshop, pas avec InDesign, pas avec ce qui fait la suite Adobe. En fait, c'est un peu comme si Microsoft rachetait que Google Docs. chez Google.
Bah oui, mais ils ont quand même un monopole sur le marché de... Enfin, pas un monopole, mais une énorme place sur le marché de la bureautique, Microsoft. Donc, s'ils rachètent un concurrent, c'est pas parce que c'est un concurrent juste d'une petite partie de leur activité que ça corner pas quand même le marché, là.
Je sais pas. Tu vois, j'utilise Figma, moi, au quotidien, et j'utilise aussi la suite Adobe, et sauf XD, justement, parce que c'est nul, et du coup, je préfère utiliser Figma.
Ah bah voilà. Mais tu vois, mais c'est une porte de sortie de l'écosystème Adobe qui sont en train de te fermer, quoi.
Oui, mais en fait,
Et puis, pardon, juste pour finir sur Figma. Figma, aujourd'hui, c'est peut-être que la concurrence d'une petite partie de la suite Adobe, mais justement, il pourrait être grossir, devenir un vrai concurrent en sortant d'autres produits qui viendraient concurrencer des Photoshop et des InDesign et des machins. Et là, du coup, c'est terminé, quoi. Après, il reste Canva et un ou deux autres, mais ils sont minuscules à côté.
Oui. Oui, il y a Canva, il y a Sketch, il y en a d'autres, en fait. Mais Canva, même pas. C'est même pas un concurrent de Figma.
C'est tout petit.
On est vraiment, ouais, mais même pas, ça fait pas la même chose. C'est-à-dire que Figma, on est vraiment sur du design d'interface. On n'est pas sur. Tu vas pas faire du montage photo en fait avec non, Figma. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas créer une affiche avec Figma. Enfin, tu peux, mais c'est même pas l'objet premier de l'outil. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais je dis pas que c'est un concurrent de Photoshop. Je dis que c'est un concurrent d'une partie de l'activité d'Adobe et que du coup, il ferme cette porte.
Minime, hein, mais ouais.
Bon.
Oui, bien sûr. Mais je te dis, moi, il y a des concurrents à Figma. Hein, donc, évidemment, ils n'ont pas pris le poids qu'a pris Figma en 2 ans. 2 ans ou 3 ans. On va dire que Figma a vraiment explosé en 3 ans. Parce qu'au début, on était sur XD, sur Sketch, etc. Figma est sorti. Figma a été plus vite que les autres. Figma a réussi là où les autres ont échoué. Et effectivement, Amazon se dit, je suis pour racheter ceux qui ont réussi là où nous on s'est planté, tu vois.
Exactement, exactement.
Et oui, non, mais je suis d'accord.
C'est la définition d'accord.
Ouais.
Tu vois, mais quand tu dis ah bah merde, on a laissé passer le rachat de Instagram par Meta et on s'en mord les doigts. Là, on est beaucoup plus dans une configuration comparable que avec Activision et Microsoft.
Ah oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais bon.
Mais bon.
Voilà,
Tu mets un petit quand même.
Mais un petit bémol, parce que tu vois, c'est vraiment pas comme s'ils rachetaient un concurrent direct de leur suite. Et il y en a, hein.
Non.
Chez Affinity, tu vois, s'ils rachetaient tout Affinity Design, etc. Toute la suite, là, te dit, OK, là, il y a un problème. Là, on parle d'un logiciel qui est, entre nous, utilisé par une niche d'utilisateurs. C'est même pas... alors qu'il représente un marché, hein.
Ouais, mais c'est 20 milliards quand même, tu vois,
Oui, bien sûr, mais parce que c'est pas donné. Mais en fait, on parle d'un marché de professionnels qui réalisent des interfaces pour des apps, des sites web, etc. C'est pas Madame Michu, Monsieur Tout-le-Monde, comme la Xbox qui est dans tous les foyers, ou presque. Enfin, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, cette dimension... je suis sûr que la plupart des gens même qui vont légiférer savent même pas ce que c'est Figma, en fait, parce qu'ils l'ont jamais utilisé.
Ça, on pourrait dire pour tous les...
Non, mais
oui,
bien sûr.
Ce que je veux dire,
c'est que... Non, mais je suis d'accord, mais c'est un outil vraiment professionnel. C'est-à-dire que si tu travailles pas dans ce domaine, t'as vraiment zéro intérêt à ça. Et je te dis, ça... Pour moi, en fait, c'est vraiment une niche par rapport à ce que pourrait représenter l'acquisition d'Activision Blizzard, tu vois, qui touche beaucoup plus de monde.
Et sur le principe.
Donc, bon, je sais pas. Moi, je trouve que c'est quand même encore brasser un peu de... Enfin, je sais pas.
Je sais pas
quel va être l'impact derrière ça, mais...
La Chine est en train d'imposer des restrictions sur l'export de métal utilisé dans la conception de puces et d'autres objets électroniques, ce qui va faire monter les prix. Donc, on est toujours dans cet aller-retour entre les États-Unis et la Chine pour les relations commerciales.
Ouais, Snap, d'ailleurs, le Apple Vision Pro, du coup, il sera à 6 000 $.
Par contre,
le temps qu'il arrive, tu sais, voilà.
Par contre, il semblerait qu'Apple ait des difficultés de fabrication. Donc, il semblerait qu'il ne puisse pas en produire 1 million, mais beaucoup moins.
C'est dommage pour l'expérience. J'aurais bien testé, tu vois.
Snapchat a réussi à attirer 4 millions d'abonnés payants à Snapchat+. ce qui est quand même assez incroyable. Snapchat, oui, condamné pour mort. Je vais arrêter de le dire parce que tous les deux mois, je dis, ah bah Snapchat, on pensait qu'ils étaient morts il y a 2 ans et en fait, ils se portent assez bien. Et maintenant, regardez, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Et là, ils ont 4 millions. On parlait de services payants et que la transformation de Twitter en service payant. À mon avis, ils n'ont pas 4 millions d'abonnés blue chez Twitter, tu vois. Alors que Snapchat, ils y arrivent. Donc, bravo Snapchat. Est-ce qu'on mentionne les questions liées
tu vas aller sur un terrain glissant, Patrick.
Non, c'est juste qu'il y a des affaires liées à la tech qui se posent oui, suite à l'affaire Naël qui occupe notre pays depuis quelques jours. Il y a la question de la cagnotte, par exemple, qui a été établie pour venir en aide à la famille du policier. Qui rapporte qui a été établi par un membre de l'extrême droite. Donc ça a forcément des connotations politiques et je pense que tout le monde en a entendu parler, hein, mais elle rapporte beaucoup plus qu'une cagnotte qui a été établie pour venir en aide à la famille de Naël. Ce qui est... Enfin bon, bref. L'aspect tech là-dedans, c'est que la question se pose de savoir si la cagnotte peut être annulée. GoFundMe dit, ben non, désolé, ça ne concerne pas le policier lui-même, ça concerne la famille, il n'y a pas de problème par rapport aux règles d'utilisation. Donc là, la question de, est-ce que, c'est-à-dire que moralement, on se dit, non, là, ça ne va pas trop, mais légalement, c'est difficile de trouver, il semblerait que ça soit difficile de trouver une raison de faire annuler cette cagnotte. On verra comment ça se goupille. L'autre gros sujet tech lié à cette affaire, c'est la question des réseaux sociaux. D'une part, de la diffusion de messages, de messages incitant à la violence, qui, j'imagine, seront suivis et condamnés par le processus légal qu'on a déjà. C'est ce que semble être en train de dire le gouvernement. Il y a un autre sujet qui a été évoqué, c'est l'idée d'arrêter les réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens disent que c'est par les réseaux sociaux que s'organisent les émeutes, etc. etc. Évidemment, quand on dit faire bloquer les réseaux sociaux, la chose à laquelle on pense, c'est immédiatement les pays dans lesquels on fait bloquer les réseaux sociaux quand il y a des problèmes dans le pays.
La géométrie variable, oui.
Ouais, laissez-moi vous dire que ce n'est pas exactement les pays auxquels on aimerait se comparer, quoi, dans lesquels ce genre de choses se produit. Il semblerait que personne au niveau sérieux de l'État n'a même évoqué l'idée. Ils ont été assez clairs pour dire non, mais enfin, ce n'est pas ça. Non, mais... ce sur quoi ils insistent, c'est que, avec raison, je pense, les réseaux sociaux ne sont pas anonymes. Et donc, s'il y a des gens qui se rendent coupables de crimes de diverses natures sur les réseaux sociaux,
oui, on les retrouvera. Eh
ben, on peut les retrouver avec les adresses IP, les données des réseaux qui sont conservées, etc.
Je vous préviens, si vous avez joué à GTA V, vous êtes déjà fiché. Hein. Voilà,
c'est
la photo jeu vidéo, on le sait.
C'est la photo jeu vidéo, on l'a bien entendu. Donc voilà, sur les deux sujets qui me paraissaient intéressants à mentionner, pour pas qu'on... Je pense que tout le monde en a entendu parler, hein, mais je voulais les mentionner quand même pour le cas où. Très rapidement, du côté de Reddit, on commence à préparer, semble-t-il, l'après-controverse, avec certaines apps qui vont s'adapter aux nouveaux tarifs des API, d'autres qui vont fermer boutique parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas s'adapter aux nouveaux tarifs des API. Par contre... Là où il y a un petit peu un tour de vis du côté de l'autorité de Reddit, c'est qu'ils essayent de remplacer les mods qui continuent leur mouvement de blocage des subreddits, ce qu'on peut comprendre. Moi, la chose qui m'a le plus, qui m'a le plus parlé, c'est la décision de certains modérateurs de dire, écoutez, si c'est comme ça, nous, on va arrêter de modérer, notamment les modérateurs du AMA. Ils disent, on va arrêter de modérer parce que Reddit a de quoi payer les modérateurs. Et s'ils payent des modérateurs internes chez eux, ils pourront leur faire faire ce qu'ils veulent. Mais nous, on travaille bénévolement. Et si on n'accepte pas les conditions, on va arrêter. Et ça pourrait sembler être, donc ils vont arrêter, donc tout va bien. Mais contrairement à beaucoup d'autres réseaux sociaux ou services de ce type, comme on le disait il y a 2 semaines, Reddit est le fonctionnement de Reddit s'appuie énormément sur le travail de ses modérateurs bénévoles. Et donc, le fait qu'ils disent, bah, OK, du coup, nous, on se barre. Alors, ce n'est pas tous, hein, c'est un groupe, notamment celui du subreddit IAMA, donc le groupe des AMA les plus célèbres, qui a interviewé plein de gens, etc. Et bah, ils disent, OK, bah, nous, on se barre, démerdez-vous. Et ça, c'est vraiment la décision la plus efficace, je pense, qu'on puisse prendre. Parce qu'à mon avis, si tous les modérateurs disent, on se barre, Reddit, financièrement, ça ne fonctionne pas. Donc.
Bah, disons qu'ils vont se fortchaniser et donc du coup.
Bah, ça, je sais pas. Hein,
non, mais j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que sans modération, bah, en fait, je vois pas comment la plateforme peut.
Ah, bah non, bien sûr. Non, sans modération, c'est pas possible. Là où ça pourrait. Il pourrait y avoir une sorte de voie de sortie, c'est si Reddit se met à payer des modérateurs pour qu'ils modèrent. Tu vois, c'est ça l'alternative. Sans modérateur, Reddit n'existe pas. Ou alors, il faudrait qu'ils travaillent avec leur communauté pour que ça soit acceptable pour tout le monde. Mais bon.
Compliqué.
Dernière chose, j'avais un dernier... C'était une update sur un truc spécifique. On parlait la semaine dernière de la loi canadienne qui va obliger les services en ligne à payer pour l'utilisation de liens vers des titres de presse. Meta avait déjà dit qu'il retirerait les liens des sites de presse en question si la loi passait, enfin quand la loi était passée. Bah, Google, qui est l'autre cible principale de cette loi, a également dit qu'ils allaient supprimer les liens de leurs produits News, Search, Discover, etc. Et que donc, bah, voilà, c'est la menace dont on parlait la semaine dernière qui est mise à exécution. Voilà, à quoi d'autre est-ce qu'on pouvait s'attendre ?
On a l'impression de traiter ce sujet mille fois, en fait.
Mais complètement, c'est ce qu'on disait la semaine dernière.
C'est incroyable.
Et à chaque fois, ça se passe de la même manière.
Alors, je ne sais pas si les résultats sont toujours les mêmes. En France, on avait vu qu'il y avait eu cette création d'un fonds de financement dans lequel Google participait. Et du coup, en échange, on avait droit de remettre les liens sur... Sur Google, bah
c'est comme ça que ça s'est passé.
En Australie, je ne sais plus comment ça s'était passé.
Je crois qu'il y avait un petit peu de ça aussi, tu vois. Google avait fini par lâcher un petit peu d'argent et c'est ce qu'on disait la semaine dernière. C'est peut-être ça aussi, au fond, le vrai but de cette loi, c'est de forcer Google et Meta à venir négocier, à dire, voilà, on vous file un petit peu et puis tout s'arrange. Mais en Espagne, par exemple, ils avaient passé des, si je ne me trompe pas, je ne crois pas qu'ils avaient lâché des sous. Je ne me souviens plus. Mais généralement, c'est un moyen de les
faire. Je crois que l'Espagne avait tenu, ouais. Mais Moriarty dit Elon ne veut pas racheter Reddit.
Parle pas de malheur. En plus, je suis pas sûr que ça lui coûterait. Je sais pas combien vaut Reddit aujourd'hui, mais.
Sans modérateur, pas grand chose. Du coup, je pense que je me permets.
Ils sont pas tous partis. Il y en a quelques-uns qui ont dit. Donc voilà pour notre actualité de cette semaine dans le Rendez-vous Tech. Merci beaucoup Cédric d'avoir été avec moi. C'était un moment délicieux passé en ta compagnie. On arrive donc à la conclusion. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet quand tu ne commandes pas
Le plus simple, c'est sur le réseau d'Elon Musk. En fait, le plus simple, c'est le réseau d'Elon Musk. Hein. Cédric de Luca avec le chiffre 2. Donc, et Luca, L-U-C-A. Et peut-être bientôt sur Blue Sky, on ne sait jamais.
Sur Blue Sky ou sur Threads. Quel est le nom de ton compte ? Est-ce que tu as changé le nom de ton compte Instagram pour
qu'il
soit reporté chez Threads ?
Écoute, je vais aller regarder de ce pas, mais sinon, non, le plus simple, c'est Cédric de Luca sur Twitter, et je partagerai un lien thread pour me faire ban de Twitter définitivement. Si, c'est Ced_de_luca, tu vois, voilà.
Ah bah très
mais
bien.
Mais je le changerai, on verra. Bon, bref.
D'accord, super.
Voilà.
On nous dit dans la chatroom que Reddit a été réévalué la semaine dernière à moins 50% de valeur. Ok, ça n'est pas la valeur quand même, mais oui, j'imagine que Reddit Market Cap, si on tape ça dans alors, ils nous disent $118, 114 pour l'action, capitalisation boursière, 11,5 millions, c'est tout ? Non, pas beaucoup plus que ça, Reddit.
Bah, écoute, non.
Vous êtes fous, 11 millions pour Reddit ? Mais attends, on fait un Ulule, on le rachète. Nous, on va...
Allez, let's go, on monte une cagnotte.
Oui. C'est pas possible. Market Cap.
Red Patrick.
Je ne suis pas très fan du...
Non, mais je les entends.
Tac.
On l'a fait une note Reddit.
Stake in Reddit was 16 millions pour leur stake. Il y a 28 millions. 28 millions pour acquérir les shares. Ah, voilà. Reddit was valued 10 billion when the social media giant attracted funds in August 2021. Ils ne sont pas en bourse, tu vois, encore. Mais c'est ça, hein, je crois. Mais non, c'est parce que s'ils ont la... Je ne comprends plus. S'ils ont l'action... Et c'était censé... Leur entrée en bourse était censée arriver justement. C'était pour ça qu'ils voulaient nettoyer tout ça, parce qu'ils faisaient une IPO. Je ne comprends plus rien ce que donne... Est-ce qu'ils m'auraient menti sur Google ? Ah non, c'est Brave. C'est pour ça que c'est peut-être pas. Dans tous les cas, selon cet article, merci, c'était 10 milliards en août 2021, la valeur estimée en fonction du financement. Hein. Bon, bah 10 milliards, c'est quoi ? Un quart de Facebook ? De Facebook. Un quart de Twitter ?
Oui, c'est ça.
Et ça va encore.
À grand-chose.
Bon, mais du coup, c'est pas 10 millions. 10 milliards, c'est compliqué quand même avec un Ulule. 10 millions, j'aurais dit, allez, go, on y va. Cédric et Patrick rachètent Reddit.
Allez,
10 milliards, ça va être dur quand même.
Ouais, là, j'avoue qu'il faut que j'appelle le banquier, mais je suis pas sûr que ça passe. Hein.
Ouais, je crois que ça va pas passer. Bon, tant pis. Pour une prochaine fois. Pour ma part, c'est Note Patrick à peu près partout. Je serai Note Patrick. Alors, je suis sur Blue Sky, sur Mastodon, Note Patrick partout. Je suis également sur.
Comment je l'ai changé, Cédric de Lucas avec le chiffre 2 aussi sur Thread. Voilà.
Très bien. Note Patrick sur Thread certainement aussi. Donc, vous pouvez nous suivre là-dessus. Vous avez la newsletter que vous retrouvez dans les notes de l'émission pour vous abonner. Vous avez la newsletter qui sera en break pendant l'été aussi. Donc, il y en a une cette semaine, mais après, ça sera en break pendant quelques semaines. Et puis, bien sûr, le Discord où on se retrouve, où voilà, oubliez les Twitter, les Threads, les Reddit. Le Discord de Note Patrick, c'est là que c'est super cool. Et vous avez également le Twitch et le YouTube pour les vidéos et les vidéos en replay. Et évidemment, patreon.com/rdvtech avec les clés, avec le bol. Ça fait cling. On se dit, oh putain, j'ai encore... Oh là là, vous ouvrez la porte, mettez les clés. Tout va bien dans votre vie. Vous êtes content, vous êtes à la maison, vous allez pouvoir vous retrouver, vous reposer, vous retrouver votre conjoint ou votre conjointe, les enfants, le chien, tout ça. Et là, le son fatidique des clés, cling, dans le bol. Et tout s'effondre autour de vous. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas patriote. C'est pour ça. Si vous étiez patriote, eh bien, le soleil éclairerait encore plus vos journées. Et surtout, à ce moment, vous diriez, ce bruit me rappelle que je soutiens un créateur que j'apprécie. Mais là, non. Là, le bruit vous amène un nuage noir sur la tête. La solution est simple. patreon.com/rdvtech. Merci à tous et toutes. On vous retrouve dans quelques semaines. Je vous fais des bisous. Bonnes vacances. À très bientôt. Ciao, ciao. C'était un bon moyen de finir l'épisode.
Mais il y a une limite à ce que tu dis, Patrick.
Je vais trop loin.
Mais non, c'est pas ça. C'est quand t'as des enfants, que tu passes la porte, que tu mets les clés, t'as pas le temps de penser ensuite derrière.
C'est vrai, c'est vrai. T'as raison, merde.
À faire, c'est foutu, quoi, tu vois.
C'est pour ça qu'il faut le faire quand on entend.
Il faut les faire manger.
Non, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire. Juste sortir le téléphone quand tu l'entends, tu vois. Faut pas attendre plus longtemps. Faut le faire tout de suite. Ou de pas le faire. Tu dis, attends, j'ai relancé l'enregistrement. Tu suggérais quelque chose d'intéressant. Plutôt que quand on arrive et les enfants, c'est le bordel, tout ça. On géolocalise tout le monde, tous les auditeurs et les auditrices, et deux minutes avant qu'ils rentrent chez eux, qu'ils arrivent chez eux, ça envoie une notification pour...
Qui dit, cliquez sur ce lien pour vous abonner sur Patreon. Et
c'est là, ça d'accord. Et ça marche, ouais, genre deux minutes, t'as le temps de le faire avant de rentrer chez toi, parce que quand t'arrives chez toi, si t'as les enfants, c'est trop tard.
Tu te gares, tu sors de ta voiture, le temps d'arriver jusqu'à chez toi.
Non, même pas que tu sors de la voiture. Quand ça repère que la voiture s'est arrêtée, t'es encore tranquille dans la bagnole.
Tu prends ton téléphone dans la voiture, tu fais « Ah tiens, j'ai une notif. » Hop, tu es dessus. « Ah bah oui, tiens. » Et puis j'ai ma carte bancaire qui est dans mon sac, juste à côté. J'en profite de cet instant de calme.
J'ai Apple Pay ou Google Pay.
Voilà.
Directement.
J'en profite de cet instant de calme et voilà.
Parfait. Écoute, tu as un boulot chez moi comme project lead, product designer. Amène ton Figma, on y va.
Je le raccourci Apple, si tu veux.
Ça va.
Et tu le distribues sur ton site.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.